Bien, mesdames et messieurs, retrouvons-nous, si vous le voulez bien, autour de la colère, car c'est bien d'un cri de colère, ironique, presque attendri des fois, mais de colère tout de même qu'il s'agit ce soir, avec ce livre, le troisième, cher Jacques, que vous publiez aux excellentes éditions Grasset, Invignez-vous. Je précise tout de suite que, pour des raisons qui ont tout à voir avec l'estime que je vous porte et l'amitié que vous avez la faiblesse de m'accorder, vous avez demandé à ce que je sois votre, non pas contradicteur, mais tout au plus passe-plat ce soir, ce qui fait de moi, sans aucun doute, si j'en juge par la docte assemblée ici réunie, le candide de la soirée, voire même, certains diraient, et n'auraient pas forcément tort, le nigo. Je vous demande donc de bien vouloir faire preuve de toute la bienveillance qui me sera certainement nécessaire à cet égard. Mais je sais que vous n'en manquerez pas, Jacques.
J'avais le choix entre Claude Évin et vous, et j'ai préféré...
Mais Claude Évin a des responsabilités que je n'ai pas, donc il n'a sans doute pas pu se libérer. Pourquoi, bien que candide, je suis avec cette attention renouvelée à chaque livre votre parcours, Jacques Dupont, parce que le vin est une chose, l'écriture en est une autre, et l'écriture du vin une troisième, et que vous faites partie de ceux en France, et quand je dis ceux, c'est un pluriel dont je me demande s'il n'est pas de majesté, qu'ils savaient parfaitement joindre l'un à l'autre l'écriture au vin. Je le sais depuis cette merveilleux ouvrage qui s'appelait Chose bu, que vous avez publié en 2008 et qui certainement parlait de choses et d'autres et de vin, mais qui pour moi me parlait du paysage français et de questions de territoire comme, comme Colette pouvait en parler un certain nombre d'années auparavant.
On est et, du même pays.
Vous êtes du même pays, je sais. Oui,
j'ai pas son talent, hélas.
Vous n'avez pas son talent pour la danse, peut-être, mais pour l'écriture, sans nul doute, vous en avez largement assez. Et puis, on se souvient que vous nous avez donné l'an dernier, non, il y a 2 ans maintenant, je crois, un tout à fait monumental, sans épée, et passionnant guide des vins de Bordeaux. Et vous revenez cette fois-ci avec un exercice tout à fait différent, intitulé « Invignez-vous ». Point d'exclamation. Je ne sais pas s'il y a un point d'exclamation d'ailleurs. Il devrait y en avoir. Oui, il y en a un. Et qui n'est pas un hommage à Stéphane Hessel, mais dans lequel on pourra retrouver des choses de la saine colère de feu Stéphane Hessel. Alors, première question, elle est évidente, pardonnez-moi. D'où ça vient, ce livre-là ? De quelle constatation ? Est-ce qu'il y a eu une étincelle qui a donné naissance à ce livre, ou est-ce que c'est une suite ininterrompue de frustrations, de petites colères qui, peu à peu, vous a amené à concevoir ce livre ?
Ben, c'est plutôt ça. Moi, je suis originaire du Morvan. On est un pays froid et les colères montent doucement. Et ça fait quelques années que dans l'éditorial du spécial vin du Point, je me mettais en colère tout seul. Il faut bien dire qu'on n'était pas très suivi par le monde viticole. Contre cette loi Évin qui me paraît absurde. Alors c'est vrai que je suis à cheval entre deux mondes, entre celui du vin et puis celui de la presse, de la télévision, de la radio, et que à chaque fois je vois, j'ai eu souvent des gens qui sont venus me voir en me disant « Ah, ça serait bien si on faisait un grand reportage à la télé, un grand documentaire sur le vin. » J'ai même écrit des sujets, j'en ai écrit parce que on me le demandait, quoi. Et à chaque fois, ça n'aboutissait pas. Pourquoi ? Parce qu'on nous disait « Ah non, on ne peut pas, on ne peut pas. » Si on montre quelqu'un qui va prendre un verre de vin, qui va le boire, et qu'en plus on voit le nom du propriétaire sur l'étiquette, ça passe pas, le CSA va nous coller une amende. Les services juridiques en rajoutent même dans les chaînes de télévision, pour se border évidemment, dans l'interdit. On peut voir de temps en temps des gens qui prennent des risques et je sais pas si vous regardez des racines et des ailes, mais assez souvent on voit des gens alors ils font qui boivent du vin, qui sont chez les vignerons, alors ils se bordent juridiquement, ils font revoir, mais a priori ça passe. Il y a l'émission aussi sur la 5, C'est à vous, entre 19 et 20 heures, mais vous remarquerez que jamais on dit ce qu'il y a dans le verre. C'est-à-dire que ça pourrait être du Coca-Cola ou de l'Orangina. C'est un truc rouge et un truc blanc, mais on ne dit jamais que c'est du vin. Parce que si on dit que c'est du vin et qu'on a du plaisir à le boire, on est condamnable par le CSA, on risque une amende. Et la loi Évin est passée en 91 et 93 dans une espèce d'indifférence générale. Le monde viticole a autre chose à faire que de s'indigner ou de s'indigner. Les gens travaillent, etc. Et finalement, on a imposé ce truc-là.
Je vous interromps juste une seconde. Est-ce que le monde viticole a pleinement pris conscience à ce moment-là des implications qu'aurait cette loi au moment où elle a été votée en 91 et appliquée en 93.
Je pense que ceux qui pouvaient en prendre conscience, ça les gênait pas tellement. Par exemple, je pense aux grandes maisons champenoises. D'une certaine façon, qu'il n'y ait pas d'accès à la publicité pour des concurrents venus de l'extérieur, à cette époque-là, pouvait les arranger. Donc, ils ont pas. Ceux qui auraient pu avoir les moyens de mettre des avocats, de faire un peu de lobbying, n'ont pas vraiment bougé. Le reste du monde viticole, il ne faut pas oublier ce que c'est. C'est des PME au mieux et des artisans pour la plupart. Donc, fédérer des individualités comme ça pour aller à la bagarre et dire non, on va descendre dans la rue, on va mettre des banderoles et on va empêcher la loi Evin, ça ne se fait pas, quoi. Et il ne s'est rien passé. Et c'est vrai que, pour en revenir à répondre un peu plus directement à votre question, qu'à un moment donné, à force de faire des éditos dans le spécial vin où je montrais l'absurdité de cette loi Evin, j'ai eu envie d'écrire quelque chose d'un petit peu plus lourd, d'un petit peu plus concret. Et quand même pas faire 2000 pages comme le précédent bouquin, mais faire quelque chose de. Ça fait combien ? 150 pages ?
Oui, c'est ça, 140.
Et donc je m'y suis attelé. Et je me suis dit, je vais aller gratter un peu sur l'histoire, quoi, voir d'où ça vient, regarder un peu dans le rétroviseur, d'où vient ce mouvement hygiéniste qui veut absolument nous faire vivre au pays des bisounours ou dans un jardin d'enfants, comme disait un autre écrivain, Gérard Berlet, dans Itinéraire spiritueux. Et quand on regarde d'où ça vient, c'est pas inintéressant, quoi. Voilà. Il y a toute une histoire derrière de ces mouvements hygiénistes. Peut-être que vous allez me poser la question, ou que je vais y répondre maintenant, mais c'est assez, comment dire, on comprend mieux le présent et la réflexion de ces gens-là en regardant d'où vient ces tendances à l'abstinence et à l'interdiction.
Toutefois, parmi les nombreux exemples que vous citez, il y en a un qui m'a beaucoup frappé, vous en parlez justement à propos de l'écriture d'un supplément 20 du Point. C'est ce site internet monté par Pernod Ricard, je crois, qui est accessible à peu près partout, y compris en Corée du Nord, et sauf en Iran, en Irak, en France et dans un autre pays que je...
Bah, c'est Penfold, c'est sur le, ouais. le... Non, c'est pas Penfold, c'est Orlando Wine.
C'est Orlando, Wine,
Orlando
ouais.
Wine, qui est un gros vignoble qu'a monté Pernod Ricard en Australie. Et en allant sur le site d'Orlando Wine, vous pouvez le faire aujourd'hui en rentrant chez vous, vous allez vous amuser à faire ça. On va vous demander votre âge. Donc, pour ce qui me concerne, j'avais un peu plus que la majorité, donc c'est pas trop un problème. Et votre nationalité. Et donc, si vous tapez France, il y a un warning qui s'allume et qui dit la loi de votre pays, c'est en anglais, mais je préfère le dire en français, la loi de votre pays vous interdit d'aller sur ce site. Alors, si vous tapez Belgique, vous y avez droit, etc. Donc, on s'est amusé à faire défiler tous les pays, depuis l'Angola jusqu'au Venezuela, quoi, grosso modo. Et il y a quatre pays où il y a le warning qui s'allume. Il y a la France, la Jordanie, l'Irak, l'Iran...
Ça fait quatre.
Ouais, ça fait quatre, ouais. Non, il y a peut-être l'Afghanistan. C'est à quatre plus la France, voilà. L'Afghanistan, je crois, aussi. Ouais. Donc, on est en excellente compagnie. Et on est quand même le pays du vin, voilà. Et nous, alors, encore aujourd'hui, la publicité sur Internet a été plus ou moins acceptée, parce qu'on ne voyait pas bien comment on allait interdire la publicité sur le vin pour Internet. C'est quand même un peu stupide. Il aurait fallu... Je dis dans mon bouquin qu'il aurait fallu ressortir les douaniers de 86, ceux qui ont arrêté le nuage qui venait de Tchernobyl. C'est à peu près aussi efficace, quoi. On ne pouvait pas interdire la publicité sur Internet, donc de fait, elle existe. Mais il en reste pas moins que sur un certain nombre de sites, quand vous tapez France, il y a cette espèce d'interdit. Alors ça donne une image de la France qui est incroyable, quoi. Mais ce n'est pas fini, on est au début, hein, de l'histoire. C'est pour ça que ça vaut le coup de s'indigner et de protester, parce que là, dans les mois qui viennent, on va avoir encore des choses qui vont arriver et qui sont plus graves que la loi Evin, peut-être. D'abord, il va y avoir une taxe. Elle est dans les tuyaux. Je ne sais pas si vous avez vu ces jours-ci. On nous a ressorti 49 000 morts, l'alcoolisme des jeunes, etc. Alors, Je plaisante pas avec les morts, je plaisante pas avec les 49 000 morts. En revanche, ces statistiques sont fausses. Et c'est des chiffres truqués pour pouvoir taper du poing. Et on nous prend encore une nouvelle fois pour des enfants, quoi, pour pas dire autre chose. Si vous allez sur le site du Monde, tout ce que je vous dis là, vous pouvez le vérifier, il suffit de ce soir sur Internet de regarder. Sur le site du Monde.fr, il y a une interview de Catherine Hill, qui est l'auteur de ce rapport qui dénombre 49 000 morts. À la question de la journaliste du Monde, qui est pas très très curieuse quand même, parce qu'elle poursuit pas, elle lui demande, mais le précédent rapport disait 28 000 morts. Comment vous passez de 28 000 morts à 49 000 ? Ça fait quand même... ça fait un certain nombre de personnes, quoi, qui sont... Elle répond, bah, c'est simple, on a pris la consommation déclarée et on l'a multipliée par 2,4 pour obtenir la consommation réelle estimée. Ah bon ? Mais la consommation, c'est pas le nombre de morts. Et en plus, pourquoi ce coefficient de 2,4 sur une consommation réelle pour obtenir une consommation estimée ? Alors qu'en France, justement, il faudrait plutôt diviser, puisque, par exemple, sur l'achat du vin, chacun le sait, on a une grosse clientèle étrangère qui vient, qui traverse la France. Il y a 90 millions de touristes qui viennent en France, qui viennent pas seulement pour assister à la marée qui court vers le Mont-Saint-Michel, mais qui viennent pour notre gastronomie, pour nos vins. Il suffit d'aller dans les caves en Bourgogne, par chez moi, pour entendre parler allemand, anglais... de voir le nombre de personnes qui vont sur la Côte d'Azur, qui repartent avec du rosé. Partout, il y a une énorme clientèle en Champagne. En Champagne, tous les gîtes ruraux qu'ont monté les vignerons de Champagne sont loués à l'année par les Flamands. Les Belges sont des gros consommateurs de Champagne. C'est les premiers clients des vignerons indépendants de Champagne. Tous ces gens-là sont comptabilisés dans la consommation française. Ce qui fait qu'on arrive à un chiffre de 53 litres de vin par personne en France, en comptabilisant tous les achats étrangers. Si on déduisait, si au contraire on enlevait un coefficient que Madame Hill ne m'a pas suggéré, je pense qu'on arriverait à 40 et quelques litres de vin par habitant, ce qui nous met dans la moyenne européenne. Mais là, répondre que pour estimer un nombre de morts, on part de la consommation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a appliqué un coefficient aussi sur le nombre de décès. Ce qui est quand même à la limite du scandale.
Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Admettons que ce chiffre, vous avez très bien expliqué ce qu'il peut avoir d'aléatoire et de pernicieux, soit juste. Mais c'est une extraordinaire démonstration de l'inanité des lois Evin.
Ben oui.
Si pendant les lois Evin, on est passé l'espace de deux enquêtes de 28 000 à 49 000 morts, ben, il faut trouver autre chose que la loi Evin, parce qu'elle est d'une efficacité tout à fait aléatoire, là aussi, non ?
D'autant que la consommation d'alcool a baissé en France,
ouais.
Et la consommation du vin, tous ceux qui travaillent dans le vin, savent qu'elle a été divisée par 3 depuis, je crois, une vingtaine d'années, ou une trentaine d'années. Par rapport à ce qu'on buvait dans les années 60, où il y avait le vin aliment, aujourd'hui, on est sur le vin de qualité, et la consommation de vin en France a énormément baissé. Bon, il suffit d'aller dans les restaurants le midi pour s'en apercevoir.
Ouais.
Non, la loi Evin, effectivement, il faudrait pouvoir répondre par l'absurde, quoi, en disant, oui, si il y a 49 000 morts, par rapport à vos statistiques précédentes, ça veut bien dire qu'il faut trouver autre chose. Mais l'autre chose, on ne l'a pas trouvé en France, parce qu'on est sur l'interdit et non pas sur l'éducation.
Vous avez dit tout à l'heure, ça ne fait que commencer. Non, ça ne fait pas que commencer parce que c'est une histoire, vous l'expliquez très bien, c'est un chapitre particulièrement saisissant, je trouve, de votre livre. Cette histoire, pardonnez le quasi-néologisme, mais prohibitionniste, est une très très longue histoire, en fait, ce qui date de la première moitié du 19e siècle.
Alors, quand je disais que ça ne fait que commencer, je pense qu'on va nous annoncer toute une série de mesures d'ici décembre prochain, qui vont être très pénalisantes pour le vin. D'abord, il va y avoir une taxe. Là, on a commencé. C'est pour ça, l'histoire des 49 000 morts, c'est pour annoncer la taxe. Il y a la commission du Sénat qui commence à nous parler de cette taxe, qui va être une taxe comportementale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est pour montrer que le comportement, quand on boit du vin, c'est pas bien. Donc on va envoyer comme signal à l'extérieur, au monde entier qui nous achète du vin, on va leur envoyer un signal en disant, Vous pouvez peut-être acheter du vin chez vous, mais chez nous en France, on considère que c'est nocif pour la santé. On va avoir le plan cancer qui va arriver à l'automne, qui va passer à l'Assemblée nationale. Il est défendu par la présidente de l'INCa en ce moment, de l'Institut national de lutte contre le cancer, et qui, contrairement aux prédécesseurs, est sur le thème « un verre de vin donne le cancer ». Un demi-verre de vin, 10 centilitres donne le cancer. Donc c'est contredit par les plus grands cancérologues, mais on s'en fout, on continue là-dedans. Alors, quand vous dites que c'est une histoire ancienne, effectivement, pour répondre à votre question, il y avait très peu de mouvements de ligues anti-alcooliques en France au XIXe siècle, dans la première partie du moins. Et la consommation d'alcool pur, alors, il faudrait voir les chiffres de l'époque, comment ça a été fait, mais grosso modo, les historiens qui ont travaillé sur la question disent que la consommation d'alcool pur en France était à peu près de 1,2 litre par tête d'habitant par an. Alors qu'en Suède, elle était de plus de 22 litres par an. Et aux États-Unis, elle était considérable aussi. Pourquoi ? Parce que c'est des pays où on distille. Et aux États-Unis, c'est un pays d'immigration. Et toute l'Europe est arrivée avec tous les... Il n'y avait pas de vin, donc on est arrivé avec tous les procédés de distillation qu'on a pu trouver. Le gin, le schnapps, on a distillé à peu près tout ce qu'on pouvait trouver aux États-Unis. Et donc là, il y a eu des ligues puissantes pour lutter contre l'alcool, à juste titre. Et en plus, on est en pays protestant et puritain. En Suède, la découverte de la pomme de terre à partir du XVIIIe siècle a fait vendre beaucoup plus d'appareils à distiller que de presse purée. Et il y avait un nombre considérable de distilleries en Suède. C'est de ces pays-là que sont partis les mouvements anti-alcooliques. En France, à la moitié du XIXe siècle, il n'y a pas de ligue nationale anti-alcoolique, alors que ça existe dans tous ces pays d'Europe du Nord et aux États-Unis et en Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'on a le vin. Et que jusque dans la première moitié du XIXe siècle, le vin n'est pas considéré comme dangereux pour la santé. En plus, on est un pays de ruralité, donc s'il y avait eu des ligues pour se battre contre le vin et le cidre à cette époque-là, le monde agricole étant très puissant, ça serait sans doute moins bien passé qu'aujourd'hui. Mais à partir de la moitié du XIXe siècle, il y a un certain nombre de fléaux qui s'abattent sur la vigne. Il y a le mildiou, l'oïdium et surtout la crise phylloxérique. À partir de la crise phylloxérique, on est aussi dans un environnement industriel plus puissant. Il y a des sites industriels, le nord de la France, etc., où se sont concentrées les industries et les besoins de boire dans une misère ouvrière très importante. Et un alcoolisme d'eau de vie va se développer en France. Donc il va y avoir une réaction médicale importante et justifiée contre cet alcoolisme d'eau de vie, d'autant que l'eau de vie prend le pas sur le vin. Et dans les comptoirs, l'assommoir, quand on lit Zola, c'est pas le vin, c'est l'alcool. Et c'est à partir de là que vont se créer les premières ligues alcooliques. Mais il y a une date importante de création de la Ligue nationale anti-alcoolique en France, c'est 1871-1872. C'est-à-dire qu'on est au lendemain de la défaite de 1870. On a perdu l'Alsace et la Lorraine. Le monde français a été très divisé autour de la Commune et des Versaillais. Et il faut trouver un coupable à tout ça. Et un coupable à la défaite de la glorieuse armée de Napoléon III, qui était réputée invincible en Europe. Ça ne peut pas être l'état-major. Vous êtes bien d'accord avec moi. C'est impossible que ce soit l'état-major. Donc, le seul coupable possible, c'est l'alcool et ces va-nu-pieds qui partaient au front bourrés à l'absinthe. Et donc, on crée en 1871 la première ligue anti-alcoolique avec comme signataire De Broglie, qui sera le futur fondateur de la République des... le terme sera repris par Pétain plus tard. Le nom m'échappe, enfin, peu importe. Et le père Dupanloup, De Broglie, Demain, tout un aéropage de bien-pensants qui vont mettre des cotisations très, très fortes parce que, évidemment, ça ne peut pas être le monde ouvrier qui rentre dans ces ligues-là, mais qui va imposer un certain nombre de choses sur le thème. Alors, aujourd'hui, le thème a un petit peu changé, mais le thème de l'époque, c'est « L'alcool nous fait perdre un corps d'armée tous les ans ». Et c'est sur cette base-là que vont être créées les premières ligues anti-alcooliques. On est loin du discours d'aujourd'hui, évidemment. Si on voyait Claude Gaud dire « Vous savez pas, ça nous fait perdre un corps d'armée tous les ans », l'alcool, ça passerait moins bien. Mais le fait, la méthode de raisonnement est toujours la même. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas sur les causes, qu'elles soient la misère ouvrière de l'époque ou l'absence de lien social ou le désarroi psychologique, mais on trouve un exutoire qui est l'alcool et c'est cela qu'on condamne. On ne cherche pas à définir quelles sont les causes et comment les soigner. Ici, on a déjà eu des débats à Bordeaux avec des addictologues qui, eux, se posaient ces questions-là. Mais le discours officiel aujourd'hui qu'on entend, ce n'est pas les causes. C'est l'alcool et on ne cherche pas plus loin. Or, on sait très bien que s'il y a des alcooliques aujourd'hui, et il y en a beaucoup, c'est parce qu'il y a aussi une absence de lien social, un grand désarroi et de la misère, pas seulement économique, mais de la misère aussi psychologique.
Alors, vous expliquez très bien que chaque époque génère ses propres idéologies et qu'il y a une espèce d'idéologie sous-jacente qui semble être à l'œuvre depuis une vingtaine d'années désormais, un peu plus peut-être, qui serait non pas le bonheur pour tous, quoique, mais la santé pour tous. La santé comme préalable au bonheur, d'ailleurs, ce qui est un peu curieux, parce que je ne suis pas sûr que des gens, fussent-ils en parfaite santé, qui sont, comme vous le dites d'ailleurs, chômeurs, ils sont dans des difficultés, soient nécessairement parfaitement épanouis dans leur existence, quand bien même auraient-ils la chance d'être en bonne santé. Et c'est cette espèce d'impératif sanitaire, qui est un impératif moral d'abord, qui justifie la loi Evin et ses conséquences.
Oui, c'est-à-dire qu'on tend, et le principe de précaution dans cette direction-là, on tend vers le risque zéro. Quoi. Aujourd'hui, dès qu'on parle de sécurité routière, on fait venir la présidente de la Ligue contre la violence routière. Bon. Très bien, elle existe. Cette femme, en plus, a perdu des gens de sa famille. Et qu'il y ait des mouvements comme ça, qui fassent du lobbying, c'est tout à fait juste, quoi. Il n'y a pas de rien à dire à ça. Mais que ce soit toujours cette personne-là qu'on fasse venir, et non pas un politique qui doit définir, qui doit dire la loi, c'est là où c'est troublant. Et c'est la même chose pour la loi Evin. La loi Evin n'est pas un objet politique de quelqu'un qui a réfléchi et qui, à un moment donné, pris la décision de dire, voilà, on va lutter contre l'alcoolisme en s'en donnant les moyens politiques. Ça peut être l'éducation, ça peut être les interdits, la prévention, comme la répression. Là, on a donné la main, la loi, on a donné la main politique à des experts qui, eux, rapportent ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent dans leur truc, mais c'est pas à eux de dire la loi, c'est aux politiques. Mais actuellement, au ministère de la Santé, ce sont ces groupes de pression qui font la loi, et avec des gros moyens. Parce que depuis une vingtaine d'années, c'est eux qui gèrent les centres de désintoxication. Ils sont en liaison directe avec le ministère de la Santé, disposent d'énormes moyens financiers. Je crois que le budget de l'ANPA, pour l'année dernière, c'était 80 millions d'euros.
Est-ce qu'au-delà de la problématique de l'addictologie alcoolique, on n'est pas sur un fait plus global de société ? Pardonnez-moi de rappeler un souvenir personnel, mais je crois qu'il le disait beaucoup, mais Françoise Sagan, peu de temps avant sa mort, à qui je manquerais de sa santé, qui était vraiment pas bonne, me disait « Mais vous inquiétez pas, de toute façon... » Ah oui, c'est vrai. « De toute façon... De toute façon, je ne vais pas mourir puisque c'est désormais interdit. Est-ce que c'est pas ça le fond du problème ? C'est-à-dire dans une société qui serait devenue excessivement prudente, peut-être ?
Ben oui, c'est ce que disait Voltaire quand il disait « Je veux être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Hein ? Si on est dans une société qui... Quand la Ligue pour la violence contre la violence routière dit notre objectif c'est accident zéro, c'est pas possible. Ouais. Il y aura toujours des accidents. Ou alors il faut caler les voitures sur des parpaings et enlever les roues. Mais il y aura toujours des accidents. On peut pas aller vers ça. Or là, on est dans un espèce de discours hypocrite qui est cette espèce de recherche permanente du risque zéro. Et ça arrive à déresponsabiliser les gens. Aujourd'hui, on nous fait tout un truc sur le binge drinking, l'alcoolisme des jeunes, etc. Mais à qui la faute ?
Le binge drinking, c'est
ouais, ça. C'est les gamins qui boivent de l'alcool très très vite pour être sous très très vite, etc. La défense, quoi. Mais à qui la faute si les jeunes font ça? Il faut se poser les vraies questions. Pourquoi ils font ça? Est-ce qu'on a transmis des valeurs? Est-ce qu'on leur a appris? À culpabiliser les gens avec la loi Evin, à culpabiliser ceux qui boivent du vin. Aujourd'hui, le discours du docteur Battel, qui est un peu le représentant de l'ANPA à la télévision, la veille des fêtes...
L'ANPA, Jacques.
L'Association nationale pour la protection anti-alcoolique et les addictions. C'est la Ligue anti-alcoolique, hein, pour faire vite. Son discours aujourd'hui, c'est de dire, parce qu'il nous voit venir quand on parle d'éducation, etc., il ne veut pas en entendre parler. Eux, ils sont sur la ligne de l'abstinence et l'interdiction. Quand on dit qu'il faut, dans les familles, apprendre à goûter et prévenir l'alcoolisme en éduquant les jeunes, lui dit « Ah non, non, surtout pas ». Et il l'a dit sur la 5 encore il n'y a pas très longtemps, parce que le début de l'alcoolisation, c'est souvent le gamin qui trempe son doigt dans le verre de vin, ou les parents, en culpabilisant encore les parents qui font boire une goutte de vin pour les mariages, les baptêmes, qui font boire une goutte de vin aux enfants. C'est comme ça que démarre l'addiction chez les jeunes. Alors quand on entend ce genre de discours, c'est affolant, quoi, parce que c'est exactement l'inverse. Et en plus, le préparer un jeune, l'éduquer, c'est pas lui faire boire une goutte de vin pendant les baptêmes. C'est au contraire, enfin moi j'ai été élevé comme ça, quoi. C'est la bouteille de vin un peu cérémonieuse que les parents débouchent le dimanche en disant, ben voilà, c'est moi, je suis d'une famille très modeste, et je me rappelle de mon père quand il y avait du vin bouché à la maison, c'était voilà, c'était pas rien. Et on a gardé ça, même si à 17-18 ans, on a tous fait les andouilles et que je me suis saoulé comme les autres. Parce qu'à un moment donné, quand on se construit, qu'on est adolescent, on a besoin de braver les autorités et de faire des choses qui sont interdites. Mais il reste dans la tête, toujours, ce respect pour le vin et ce qu'on y a semé. On est dans le pays de la gastronomie, en France. Et à l'école, on n'apprend pas aux gamins à reconnaître un vrai jus d'orange, d'un jus d'orange fait avec des jus concentrés, je sais pas quoi. On ne leur apprend pas à sentir un morceau de pain. Il faut que ça soit quand même un Américain qui est professeur, qui est formidable, qui s'appelle Steve Kaplan, qui soit le grand spécialiste du pain en France. Il est formidable, je l'aime beaucoup, je l'ai interviewé dans Le Point, mais il n'y a pas de livre français de cette qualité sur le pain. Et Steven Kaplan, c'est magnifique ces bouquins. Et voilà, quand on passe un moment avec lui, qui prend une baguette et qui vous montre comment sentir le pain et qu'il explique la deuxième cuisson, etc., c'est génial. Mais ça, lui, quand il va dans une école, il est sollicité de temps en temps dans les écoles. Les mômes, ils sont comme ça, ils adorent. Et c'est pas éduqué sur le. Je fais pas un plaidoyer pour le vin dans les écoles. Je fais un plaidoyer pour le goût, pour apprendre le goût. Et ça me semblerait indispensable. La Finlande le fait. Alors, la gastronomie finlandaise, j'ai goûté. Bon, je préfère quand même celle du Sud-Ouest. Hein. Mais que la Finlande le fasse et qu'en France, on ne soit pas foutu, en dehors de l'organisation de la Semaine du Goût, qui est financée, je crois, par l'industrie sucrière, et c'est pas un reproche, tant mieux, ça existe, bon, c'est déjà ça, mais qu'on ne soit pas foutu dans les écoles d'apprendre la gastronomie, le goût, de faire sentir, de faire passer ces choses-là, je pense que ce serait une bonne prévention contre l'alcoolisme. Alors, je voulais ajouter autre chose. Quand je parle du combat de ces gens-là et que je dis qu'il est pour l'abstinence et l'interdiction, c'est que leur raisonnement repose depuis 1956 sur la loi de Lederman. Lederman, c'est un élève d'Alfred Sauvy. Il aurait mieux fait de lire un peu mieux son maître. Et Lederman a inventé un beau jour une règle, une loi, et qui est la suivante, c'est une loi mathématique. Ne me demandez pas d'expliquer la loi mathématique, vous serez gentil. C'est la loi de Laplace-Gauss. C'est à partir du moment où il y a une consommation modérée de vin, en appliquant un carré, on trouve le nombre d'alcooliques. C'est-à-dire, si on démonte le truc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de consommation modérée sans une consommation excessive. Donc, dans un pays où il y a une consommation modérée, il y a forcément de l'alcoolisme. Donc, pour combattre l'alcoolisme, il faut interdire la consommation modérée. Et c'est pour ça que le plan cancer qu'on va nous pondre à l'automne ne sera pas un plan pour lutter contre les excès de consommation d'alcool, mais pour réduire la consommation moyenne de chaque citoyen. Parce qu'en réduisant la consommation moyenne de chaque citoyen, on réduit l'alcoolisme. C'est génial. Sauf que la loi de la place Gauss, elle ne s'applique pas à ce milieu-là, parce que si elle s'appliquait à ce milieu-là, on serait dans 1984 ou dans Soleil Vert, on serait dans un monde de robots qui ne tiendrait pas compte de ce qu'on est, toi, des individus qui réfléchissent tout différemment. Et en plus de ça, cette loi de Lederman, ben les Québécois ont montré que c'était faux. Parce qu'au Québec, ils ont fait un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de l'éducation très tôt, parce qu'au Québec, ils avaient des vrais problèmes d'alcool. Et ils ont un programme qui s'appelle Éduc'alcool, qui est financé par l'importation des vins et des alcools. C'est une taxe qui est prélevée et qui finance Éduc'alcool et qui permet à l'école d'éduquer les gens. Ils éditent des cartes postales pour prendre en dérision ceux qui se saoulent, etc. Ils ont fait un énorme travail qui fait qu'aujourd'hui, dans la population de la belle province, c'est la province du Canada où il y a le plus de gens au-delà de 15 ans qui boivent de l'alcool, et c'est la province où il y a le moins d'alcooliques. C'est-à-dire que c'est l'inverse de la loi de Lederman. C'est-à-dire qu'on est dans une consommation modérée sans consommation excessive. C'est fou parce que, en France, je parlais de la télévision, mais on va en Belgique, on va au Québec, où on voit des gens avec des verres de vin à la télévision sans arrêt. Et en France, au pays du vin, on ne peut pas, quoi. C'est...
D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Est-ce que c'est totalement illusoire de penser avoir une politique publique qui différencie un peu les choses et qui n'est pas une politique de santé publique contre, je sais pas comment dire, l'alcool, de manière totalement indifférenciée? C'est-à-dire que il y a certainement aujourd'hui, tous les chauffeurs de taxi de Bordeaux vous le diront, chez les jeunes, notamment le jeudi soir, un problème de binge drinking, pardon pour le néologisme, l'anglicisme, pardon, mais ce problème-là, il n'est pas lié à la consommation de vin, mais à toutes sortes d'autres produits. Est-ce que c'est totalement illusoire de penser que les politiques amènent des réponses adaptées à chaque problème? Et je suis très surpris du caractère schizoïde, pardon, de cette société. C'est-à-dire que ce lobby hygiéniste, je ne trouve pas d'autre terme, trouve à ce point des échos dans une société qui, par ailleurs, de plus en plus, reconnaît son propre hédonisme comme faisant partie de sa culture. Vous le rappelez dans le livre, l'histoire de la gastronomie française, patrimoine mondial de l'humanité, je ne sais pas si c'est le terme exact, oui, je crois.
Immatériel.
Patrimoine immatériel, oui, par définition. C'est-à-dire que dans le même temps où se développent des mesures, j'allais dire vexatoires, des mesures prohibitionnistes, dans le même temps, la même société a tendance de plus en plus à reconnaître la nécessité de sa gastronomie, de son vin, comme partie intégrante de sa culture.
Ben oui, mais c'est pas dans une situation dynamique. Hein. C'est un peu le dernier bouquin de Houellebecq. Ouais. C'est le grand parc d'attractions, quoi, le grand parc touristique. Alors, mais voilà, en même temps, c'est la taxe qui va être comportementale, là, qui va être prise, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on va dire aux autres, venez chez nous et buvez du vin. Mais chez nous, non, parce que c'est pas bon pour la santé. Hein. Donc, faut pas nourrir les petits animaux qui sont derrière les grillages. Et c'est nous, ça.
Est-ce qu'il y a eu, pour l'anecdote, des exemples de... Vous savez, pour la lutte contre le tabac, et d'ailleurs on a aussi absolument tort de mélanger la lutte contre l'alcoolisme, qui devient une lutte contre l'alcool d'ailleurs, en général, avec la lutte contre le tabac, c'est pas exactement les mêmes problématiques, ni les mêmes enjeux, ni les mêmes conséquences, mais on a vu des choses totalement aberrantes dans la publicité. On a vu que sur une célèbre photographie d'Henri Cartier-Bresson, Jean-Paul Sartre avait cessé de fumer, que mon oncle de Tati...
On lui avait retiré sa cigarette.
On lui avait retiré sa cigarette.
Et Chirac n'a pas pu publier ses mémoires, son deuxième tome, parce que...
Oui, oui, tout à fait.
Il a fallu refaire la couverture.
La photo choisie de Chirac, ça n'allait plus. Lucky Luke ne fume plus, donc tous vos vieux Lucky Luke, gardez-les précieusement. Gaston Lagaffe ne fume plus non plus. Enfin bon, voilà. Est-ce qu'il y a des exemples de cette sorte à votre connaissance
Sur le vin?
Sur le vin.
Non, mais, il est très clair. Il est très clair. Françoise Laborde, membre du CSA, avait répondu à mes confrères de la revue des Vins de France qu'il était hors de question de montrer un présentateur à la télévision ou quelqu'un à la télévision avec un verre de vin.
De la part de Françoise Laborde, c'est une expertise.
C'est quelqu'un qui s'y connaît bien, effectivement. Ouais. Et on se disait tout à l'heure en aparté que le Sénat proposant une taxe sur le vin, effectivement, là aussi, on a affaire à des experts. J'ai quelquefois l'occasion d'aller au Sénat. C'est une des plus belles caves de France. Hein. Et on y boit des très, très beaux vins. Mais bon, voilà, ça, c'est pour le public.
Alors, quels sont vers où va-t-on maintenant qu'on a dressé ce tableau absolument désastreux de paysage après la bataille?
Eh ben, je ne sais pas où on va, mais il serait temps de s'aviner, quoi. C'est pour ça que j'ai pris ce titre. Moi, je me foule pas pour les titres. Hein. Mon premier livre, c'était Chose bu. J'avais pris le Chose vu de Victor Hugo et j'avais remplacé par un B. Et c'était mon titre de travail. Et chez Grasset, il m'avait dit très bien, mais quand on va le publier, on va trouver un meilleur titre. Et ils n'ont pas trouvé, donc on a gardé Chose bu. Et pour Avignez-vous, ça a été le même truc. Ils m'ont dit, ah, c'est rigolo ton titre de travail, et faudra qu'on trouve un autre titre. Et vous voyez, ça s'appelle Avignez-vous. Et à chaque fois, je change une lettre. Alors, je ne sais pas le prochain coup, ce que je ferai. Si vous avez des suggestions à me faire.
Autour de la chartreuse de Parme, on doit pouvoir trouver quelque chose.
Ah oui, la chartreuse de ouais. Ouais. La VIP. Oui. Voilà, non, je pense qu'il faut... Moi, je donne un exemple à la fin, Bordeaux, faites le vin, quoi, parce que je trouve que c'est une réussite extraordinaire.
J'ai vous en parler.
Bon, j'y suis allé une ou deux fois, j'ai pas vu de mec bourré, quoi. Je sais pas, peut-être vous aussi, mais il m'a pas semblé que ça débordait autant que le Paris Saint-Germain qui fête une victoire de football. Et puis ça s'exporte. Au Québec, je crois que ça a été une grande réussite. Ça va partir en Chine, en Belgique, partout. Et je me disais que peut-être qu'une bonne façon de s'aviner, ce serait que le monde viticole disait, si on faisait cette fête-là sur les Champs-Élysées, on casserait rien, on laisserait les vitrines tranquilles, on ferait une grande fête du vin sur les Champs-Élysées, de la Concorde jusqu'à l'Arc de Triomphe, avec toutes les régions viticoles, avec les œnologues qui viendraient expliquer le vin, avec des vignerons qui montraient comment on taille. Je sais pas, ça serait peut-être une bonne idée, avec des conférences, peut-être même qu'on pourrait inviter nos camarades hygiénistes à venir débattre avec nous. J'ai l'impression que le débat, c'est pas leur truc, hein, parce que je fais une petite tournée de radio, de télévision en ce moment, mais jusqu'à présent, ils ont toujours refusé de venir défendre leurs arguments. Et on voulait faire un débat avec Claude Évin sur la télévision du Sénat et de la LCP, Public Sénat, là, et de l'Assemblée nationale. Et il n'a pas l'air de vouloir venir défendre sa loi. Je crois même savoir qu'il n'est finalement pas très très fier d'avoir signé cette loi et d'y avoir collé son nom.
Alors, est-ce que la solution, elle est pas, enfin, vous venez d'y répondre d'une certaine manière, mais il n'y a de réponse aux interdits que par l'éducation, finalement, et par un travail de fond.
Mais c'est pas spectaculaire, l'éducation.
C'est pas spectaculaire, mais en même temps, moi, ça m'apparaît, je peux me tromper, ça m'apparaît être fait. Je suis d'une génération bordelaise, hein, qui a eu 20 ans à Bordeaux dans les années 80, où il n'y avait aucune éducation au vin. Je sais que ça peut choquer certains d'entre vous qui certainement
le faisaient pour leurs propres enfants.
Ça se faisait dans les familles, pas toutes, celles qui avaient une histoire personnelle avec le vin. Ce qui, quand même, faut pas exagérer, dans une ville de 200 000 habitants, n'est pas le cas de toutes les familles bordelaises. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette éducation, peu ou prou, il me semble, hein, je peux me tromper, mais c'est un message d'espoir, cette éducation est en train d'être faite beaucoup plus qu'elle ne l'était jusqu'alors.
Eh ben, peut-être, et c'est souhaitable. Alors moi, je vois, je suis membre d'un jury des concours de grandes écoles, ça se termine à Lafitte tous les ans, c'est très bien, on boit du Lafitte, et tous les gamins du monde entier qui sont dans les grandes écoles viennent s'affronter en dégustation dans les chais de Lafitte, c'est formidable, ils viennent de Hong Kong, bon. Et l'année dernière, c'était une école de commerce de Lille qui a gagné. Et je discutais avec le jeune et il me disait, on se réunit en dehors de l'école parce qu'on n'a plus le droit de faire entrer le vin à l'école. Ouais. Et alors le président de l'école est membre de leur club de dégustation, mais ils se réunissent en dehors. Parce que sinon, ils tomberaient sous le coup de la loi Évin, quand même. Bon. Et on voit effectivement tous ces jeunes passionnés, etc. Mais c'est des élites. Est-ce que dans les milieux populaires, couches moyennes populaires, aujourd'hui, la culture du vin existe ? Le binge drinking est une forme de réponse. Hein. Ouais. J'ai bien peur que non. Alors il faut... Bon, moi j'emmène des jeunes souvent dans dégustation j'ai un fils, quand ils avaient 18 ans, lui et ses copains, je voyais bien que ça touchait un peu à tout, pas seulement à l'alcool d'ailleurs. Je les ai emmenés un peu dans goûter du vin et je leur ai mis des bouteilles de champagne. Tous les ans, je faisais ça pendant un moment, avec des jeunes stagiaires du journal aussi. Et je leur faisais goûter du champagne, je leur expliquais, j'essayais de pas d'être trop rasoir, d'être moins long que ce soir. Ça c'est issu de Pinot Noir, ça c'est issu de Chardonnay, expliquer un peu comment ça se faisait. Et ils avaient un seau, un verre, ils recrachaient. Et à la fin, on leur préparait un petit repas et ils pouvaient boire ce qui restait dans les bouteilles, quoi. Il n'y en a jamais un qui est parti hors d'état de nuire. Ont pris beaucoup de plaisir. Il n'y en a aucun qui est devenu alcoolique. Et je crois même que j'ai perverti un de ceux-là, puisqu'il est devenu sommelier, alors qu'il avait fait des études de commerce. Il est devenu sommelier en Australie. Mais au mieux alcoolique. Et je pense que, alors effectivement, c'est pas spectaculaire. Hein, vaut mieux prendre des interdits. Ça fait la une des journaux. On va interdire ceci, interdire cela. C'est comme l'interdiction de pour les jeunes qui viennent d'avoir le permis. On va mettre l'alcool à zéro. On va faire passer de 0,5 à zéro. Sauf que tous les gamins qui se plantent en voiture et qui se tuent, ils ont une alcoolémie qui passe 1,8 g ou 1,2 g, je ne sais plus combien. C'est pas le problème de l'alcool à 0,5 ou à 0,2, c'est le problème d'une alcoolémie très très élevée. Et ça va faire partie des mesures dites spectaculaires, mais qui ne servent strictement à rien. Quoi. Voilà. Mais ça, on aime bien faire. Mais partir de l'éducation et dire dans les écoles, on va vous apprendre les dangers de l'alcool. On va vous faire ce que font les Québécois. Ça, c'est pas spectaculaire. Ça demande un peu plus de temps que le temps d'une législature. Et c'est pas du tout dans l'objectif de ceux qui aujourd'hui ont la gouvernance au ministère de la Santé.
Comment votre livre a été reçu, notamment dans le milieu vitivinicole?
Je sais pas trop. j'ai eu des messages sympathiques sur mon répondeur ou des mails sympathiques, mais j'ai eu aussi beaucoup de choses agressives, non pas de la part du monde viticole, mais de la part du monde des hygiénistes. Quoi. On m'a comparé à Charlton Heston, non pas pour le physique, mais parce qu'il a présidé longtemps, je ne sais pas s'il la préside encore, la NRA, qui est l'association pour la liberté de circulation des armes aux États-Unis. Voilà, donc est considéré comme une arme de destruction massive.
Quoi. Vous avez, Jacques, un avantage éminent sur Charlton Heston, vous êtes vivant, parce que je crois que Charlton Heston est mort il y a peu de temps.
Ah oui ?
Ouais, il me semble. Hein, de toute façon, je crois. Oui, ouais, mais il avait l'esprit qui battait la campagne, ce qui n'est pas non plus votre cas, donc ça fait deux avantages déjà.
Et c'était un révolté du Bounty aussi.
C'était un révolté du Bounty, absolument. Voir tout de même. Jacques Dupont, merci de cette saine colère, car les colères parfois sont saines. Ça s'appelle Invignez-vous. Ça se lit aussi vite, ou plus exactement aussi vivement que vous l'avez écrit.
J'ai mis 6 mois quand même. Si vous mettez 6 mois à lire.
Non, j'ai pas dit vite. J'ai dit vivement. J'ai dit vite, mais c'est une erreur de ma part. En tout cas, ça se lit avec passion, comme certainement ça a été écrit. Et puis, mais on ne quittera plus désormais vos aventures éditoriales. Vous le savez, on vous suit, on ne vous lâche plus. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.